Alors, on reçoit Charles Lussier, qui est géographe botaniste, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Alors là, on va parler, évidemment, avec vous d'essence d'arbres indigènes et on va parler de votre passion pour les arbres. En fait, on vous surnomme, en fait, au fond, l'homme qui plantait des arbres, hein, parce que des arbres rares. vous n'êtes pas sûr.
C'est-à-dire que quand les gens ils disent l'homme qui plantait des arbres, j'ai des collègues qui plantent pas mal plus d'arbres que moi. Mais j'ai choisi un créneau un peu plus rare, justement. Je travaille sur les arbres rares du Québec, du sud du Québec, depuis plus de 20 ans. Parce que, alors voilà.
Parce que je disais que, bon, évidemment, tout le long du Saint-Laurent, c'est ça, à l'époque, parce qu'on va parler des fêtes de la Nouvelle-France, à l'époque, justement, où les colons débarquent, tous ces terres-là sont boisées. Et puis, on a, avec le temps, perdu ces espèces indigènes.
Oui, totalement. Puis, il faut comprendre que il y a certaines espèces qui, avant même l'arrivée des Européens, étaient quand même déjà, avaient un caractère plus rare par leur ce qu'ils sont comme au niveau reproduction, tout ça.
Ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est des espèces comme le chêne blanc, qui est aujourd'hui pas extrêmement rare, mais on a carrément perdu nos grandes chênaies blanches de la vallée de l'Outaouais, du Richelieu et de la vallée du Saint-Laurent.
Mm-hmm.
Et aussi d'autres espèces. Là. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que, puis aussi avec l'agriculture, on fait juste regarder une carte, une photo aérienne du sud du Québec.
C'est devenu des terres.
On a perdu un patrimoine forestier. Ouais.
Exactement. Quelles sont ces espèces rares, tout particulièrement?
Il y a justement des degrés de rareté. Dans les plus rares, donc ceux qui souvent naturellement étaient déjà rares, aujourd'hui on a l'orme de Thomas ou l'orme liège. On a trois espèces d'ormes au Québec, l'orme blanc d'Amérique rouge. Mm-hmm. Et l'orme de Thomas, lui, a déjà un type d'habitat précis. Donc lui, sauf qu'aujourd'hui, il est vraiment très rare. On parle de 2500 tiges, qui est dans à peu près un des arbres les plus rares, indigènes. Toujours, on parle des arbres indigènes, bien sûr.
C'est ça.
Ensuite, on a le pin rigide. Lui, c'est un arbre très confiné. Ça fait que c'est deux petites colonies. C'est un peu particulier. Mais après ça, on tombe dans des espèces comme le carrier ovale. On a deux espèces de carrier. Le carrier cordiforme, qui est assez abondant. Montréal, sa région est dans les rabières à carrier cordiforme. Donc, il y en a quand même. Et le carrier ovale, son frère, si on peut dire, plus rare et souvent, c'est que ça va avec l'habitat. Carrier ovale, c'est des arbres qu'on va trouver surtout en rive. Donc, déjà, on limite l'habitat. Dans le même type d'arbre, dans le même degré, plus ou moins, un peu plus rare, le chêne bicolore. On a quatre chênes indigènes, mais le bicolore, sauf erreur, là, je t'aime des fois un petit peu, si on parle de même pas 50 colonies naturelles dans le sud du Québec, là, et je pense que des collègues botanistes me disaient que des fois, il y en a que ça fait longtemps qu'on est allé visiter, donc peut-être aujourd'hui, c'est un développement immobilier.
C'est ça aussi, hein, oui.
Donc, la pression actuelle...
Elle est très forte, oui.
Oui, puis on est dans le sud du Québec, la moitié, je pense, plus de 50% des gens y habitent.
Exact.
L'agriculture, ça s'en va pas on continue de prendre l'espace.
Oui, c'est ça.
Un autre rapidement, l'érable noir. Ça, c'est un peu plus fréquent, mais quand même la région de Montréal, qu'on connaît moins.
C'est ça.
Génévrier de Virginie. Deux, trois colonies dans tout le sud du Québec. Puis après ça, c'est plus dans la région de Pontiac, là, nord-ouest du Terre.
Et
un dernier, peut-être, excusez-moi, je vais finir ma liste.
Oui, tout à fait.
Le micocoulier occidental, qui est encore une fois pas... Il était classé rare et il est plus classé parce qu'il y a un système de classement au niveau gouvernement. Donc, quand même, voilà.
Et puis, en fait, ce sont des espèces qui peuvent vivre très bien, justement, dans nos régions. Et vous parliez du chêne bicolore quand même. Son espérance de vie dépasse les 300 ans. Alors, quand on pense que, quand ces arbres-là disparaissent, c'est tout un patrimoine qui disparaît aussi.
Oui, et c'est là, comme on dit, la nature de mon travail, c'est... Et quand on... Concrètement, premièrement, quand on se promène dans ces forêts-là, parce qu'il y en a, c'est de toute beauté, et on voit aussi, et puis c'est quand même là, c'est notre patrimoine naturel forestier.
Ouais.
Et donc, c'est ça... Votre question était donc
Ben,
de...
non, ben, je disais que quand ces arbres-là ont une espérance de vie de 300 ans, quand ils disparaissent, quand on les coupe, c'est tout
Coupe.
un patrimoine qui disparaît avec.
Oui,
Et puis toutes
c'est
nos
ça.
forêts
Puis...
vierges, là, bien sûr, qui protègent des habitats aussi pour la faune,
Oui.
la biodiversité. C'est évidemment une lutte de tous les instants parce qu'évidemment, la compétition est forte. Oui, on parle en fait, de zones minières, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a les feux de forêt également, comme l'an passé, ça a été évidemment des feux
Ouais,
records. Ça, c'est quelque chose aussi.
je vous arrête parce que là, on est dans le sud du Québec, donc il y a des menaces qui existent.
Ouais.
Il n'y a pas de feux de forêt associés à ces forêts-là ou
Non, je
très,
comprends.
très peu parce qu'on est vraiment dans des sols déjà humides parfois et aussi avant tout, on est dans la forêt de feuillus, donc on n'est pas au nord de Mont-Laurier, etc. Donc ça, ce niveau-là, ça va. C'est vraiment plus les activités humaines et aussi des fois, ça va être la méconnaissance. Quelqu'un va arriver, va dire, ah, oh, c'est du chêne à gros fruits, puis il va te mettre la chaîne ça là-dedans, mais c'était une belle talle de chêne bicolore. Et aussi, donc, c'est ça. Et 300 ans, il faut parler que c'est certains individus, parce que tu sais,
C'est
ça, c'est
pas
les
non.
grandes longévités.
Oui.
Mais c'est surtout ce qui est important de retenir, c'est un arbre de 75, 100 ans, 60, 75, ce sont des grands semenciers. Et donc, il faut voir, surtout ça, quand que moi je vois une colonie, c'est, ah, ici, c'est comme on dit, ça produit, tu sais. Donc, des semences pour la suite. Et pour répondre un peu à votre question, ce qui est intéressant, parce que je suis loin d'être le seul là, qui participe un peu à cette réintroduction, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts et actuellement, depuis moins de 10 ans, c'est très dynamique en termes de conservation, achat de propriétés, classé justement, il y a l'organisme conservation de la nature du Canada, qui est, je pense, sauf erreur, le plus grand acheteur de terres au Canada, là, toutes disciplines confondues, achète des terrains stratégiques dans le sens suite à le passage d'experts, on va dire ça, ce lot-là, on achète ça parce que pour justement pérenniser
C'est
ce
ça,
patrimoine-là.
protéger,
Fait
oui.
qu'il y a quand même, je vais vous dire,
Il y a du travail
ça
qui
va
se
quand
fait quand
même
même,
bien, là. Ça
oui.
va bien, ouais.
Mais
Dans un
c'est ça,
sens, hein?
oui. Monsieur Lucet, j'ai envie de parler un peu de vous. Quand on parle d'une passion, d'un métier aussi défini ou pointu que le vôtre, il est né comment? Il est né où cet intérêt-là pour vous?
Bonne question. Je viens d'une ville du sud de Montréal en pleine basse terre, dans des sols très riches. Je viens de Saint-Lambert, dans le temps, c'était une autre ville qu'aujourd'hui, dans un sens. Elle s'en est plus loin. Et c'est une ville avec des beaux grands arbres. Fait que il y a ça. Puis j'ai travaillé à la voirie dans un parc. Puis j'étais à la division horticole. Puis après ça, donc moi j'ai fait un bac en géographie avec l'option vraiment, ben, c'était pas botanique, géomorphologie, sciences des sols. Donc, et ensuite aussi, dans ma jeunesse, moi, j'ai été élevé dans le nord au début, puis maintenant, on a transféré d'un canton de l'Est, là, et on allait au village en chaloupe, comme certaines. Et donc, juste se promener dans les rivières, moi, j'ai pas le choix. Je travaille en agroforesterie riveraine, donc jusqu'à ma mort, m'avoir un pied dans l'eau puis un pied sur
C'est ça.
terre, là.
Oui, parce que l'agroforesterie, parlez-nous-en un petit peu, c'est très intéressant là quand même, parce que évidemment, agro, on parle d'agriculture puis de
Oui.
forêt. En fait, on combine maintenant le plus possible les deux. Très important.
Exactement. Ça,
Ouais.
c'est comme on dit, encore une fois, jusqu'à ma mort, parce que c'est fascinant, parce que je dis toujours, il y a 150 ans et plus de connaissances en agronomie et en foresterie. Ça fait longtemps que l'être humain veut augmenter ses rendements. L'agroforesterie s'est débarquée au Québec en 1987 avec un monsieur, ben, il était trois, deux géographes, un ingénieur forestier, André Vézina, qui est le père de l'agroforesterie que je salue, qui est dans la région de la Pocatière. Et donc, de là, il y a le ministère, le MAPAC, voyait que, bon, on avait déboisé, puis là, tranquillement, ils sont allés voir en Europe, aux États-Unis, puis on a parti vraiment la machine planter des arbres, surtout des haies brise-vent.
Oui,
Et
très
donc,
important
est
ça.
née tranquillement l'agroforesterie, donc la culture, la production agricole, avec une présence d'arbres, surtout en haies, le long des champs. Et au début, c'était, mais maintenant, on est rendu plus. Et ça fait, c'est tout. Ça fait que c'est une nouvelle science qui est fascinante parce qu'on connaissait beaucoup les forêts, la dynamique, les insectes, les maladies, etc. La ligne d'arbres dans une étendue de maïs et de soya, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Et moi, j'ai été commencé comme praticien, et je le suis encore, j'ai une entreprise. Et juste par observation, j'ai dit, attention, il se passe de quoi ici? Là, des fois, des murs de coccinelles au mois d'août, j'ai vu des haies rouges. Et je ne suis pas agronome pour deux sous, mais j'ai dit, OK, il se passe de quoi? Et de là, j'ai pris contact avec des collègues, puis on était une dizaine dans le temps. Voilà. Et je fais aussi de la recherche parce que c'est trop fascinant. Et concrètement, le volet recherche est... Quand la recherche s'installe dans une discipline, c'est que là, il y a matière.
Il y a matière, ça évolue assez rapidement après ça, parce qu'évidemment, on maximise à la fois les rendements en agriculture avec la foresterie. Enfin, vous parlez des haies brise-vent, très intéressant aussi par rapport à même au niveau de l'érosion des terres. Alors, il y a vraiment plein de choses. Et puis même, c'est sûr qu'on pourrait en parler des heures parce que c'est un sujet très intéressant.
Mais vous
vous incitez beaucoup les gens aussi à planter sur leur terrain des espèces plus rares. Là, vous parliez du chêne bicolore. Je ne sais pas si mes chiffres sont... évidemment, on pouvait avoir quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas longtemps, là, un chêne bicolore là, à 100 $ pièce peut-être. Alors, ça peut être intéressant.
Écoutez, ça, ce prix-là, c'était le prix horticole d'un arbre de 2 mètres, 3 mètres.
Oui, c'est ça, petit, domaine,
mais vous pouvez très bien en avoir un par la poste à 2 $, là. Mais il va avoir 50 cm de haut.
Bon, ben c'est ça.
Si les jeunes couples là, de 22 ans viennent de leur acheter leur maison, bien que maintenant...
Oui, mais il faut se donner une chance, là. Si on peut peut-être le partir un peu plus gros.
Il y en a pour tous les budgets. Il y en a concrètement 8 $ qui ont 1 mètre, des fois 1 mètre et quelques. Puis là, dans 3 ans, vous avez un bel arbre. Fait que ça, c'est un prix genre de luxe, là, des fois, les gros arbres qu'on se fait transplanter et qu'on se fait livrer avec une grosse mode de terre.
En tout cas, vous êtes optimiste quant à l'avenir, il y a du travail. Et puis, je pense que les gouvernements sont quand même sensibilisés.
Oui.
Sûr. Et puis, il y a vraiment des gens, de grands spécialistes qui surveillent, évidemment, l'évolution de ce qui se passe. Et puis, c'est quand même rassurant parce que, évidemment, puis c'est sûr que là, évidemment, comme vous dites, c'est des terres qui sont plus au sud du Québec. Là, on parle pas de tout ce qui se passe plus au nord, évidemment. Tantôt, je parlais d'industrie minière, mais évidemment, il y a tout le déboisement qui se fait pour le bois, pour récolter le bois. Ouais. Enfin, il y a toutes sortes de façons de faire. Mais plus près de nous, c'est ça. L'agroforesterie, c'est quelque chose vraiment qui se développe. Alors, vraiment très intéressant d'être venu nous en parler.
Mon grand plaisir.
Oui. Monsieur Lucier, continuez, Charles Lucier, de planter des arbres. Je pense que vous en plantez au moins 4 000 par année, ça se peut-tu?
Non, ça, c'est un planteur très bon en plante 4 000. Moi, c'est que ma marque de commerce, c'est moi, j'en plante
vous avez moins le temps.
Non, 4 000, 4, 6, 7 000, ça dépend des années.
D'accord.
Et par contre, moi, c'est ma marque de commerce, c'est parce qu'on est dans le sud du Québec, c'est l'entretien, c'est la plantation et le suivi, parce que c'est toujours beau de planter avec la première page du journal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 25 ans plus tard, sont-ils encore là? Puis, tu sais, on a planté 1 000, sont-ils les 1 000? Donc, je fais, assure un entretien et la recherche, tout ça, fait que je suis pas axé sur le volume, la quantité, mais sur, qualité et suivi et acquisition de connaissances.
Charles Lucier, botaniste géographe ou géographe botaniste, c'est selon. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bon été à vous.
Bonne journée.
Au revoir.